France Culture.
Précisément 18h sur France Culture, le journal Estelle Camerère. Bonsoir Estelle.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Les États-Unis assurent avoir réussi leurs opérations sur les trois sites nucléaires iraniens bombardés dans la nuit. Nous irons donc aux États-Unis au début de ce journal. Nous serons aussi dans les rues de Jérusalem. Les Israéliens soutiennent majoritairement les attaques contre l'Iran et ne comptent pas céder à la panique. Du côté des réactions iraniennes, la diaspora est atterrée. Nous entendrons une avocate sur le sujet. Et en France, pour la fête de la musique hier, des femmes ont été victimes de piqûres, un phénomène qui prend de l'ampleur mais servirait surtout à faire peur. Un succès spectaculaire, les mots utilisés par les États-Unis pour qualifier leurs attaques sur l'Iran la nuit dernière. L'opération a mobilisé 125 avions, dont des bombardiers. Autant de détails révélés par une conférence de presse du chef d'état-major américain cet après-midi. Les précisions de Benjamin Ely.
Cette opération porte un nom révélé par Dan Kane, le chef d'état-major des armées.
Operation Midnight Hammer.
Marteau de minuit. C'était une mission complexe et à haut risque menée à bien grâce à des compétences exceptionnelles. Sept bombardiers furtifs B-2 ont été mobilisés, un trajet de 18 heures depuis leur base américaine, rendu possible grâce à de nombreux ravitaillements au vol. Au total, 14 bombes anti-bunker de plus de 13 000 kilos ont été larguées. Sur la première utilisation opérationnelle de cette arme, selon Dan Kane, qui pèse ses paroles, cette opération était conçue pour sévèrement dégrader les infrastructures nucléaires de l'Iran qui ont subi de graves dommages.
Well, thank you for joining us this morning.
Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, lui, est moins timide dans le choix des mots.
It was an incredible.
Ce fut un incroyable et écrasant succès. Nous avons
dévasté le programme nucléaire iranien.
Pete Hegseth menaçant, qui cite le commandant en chef,
any retaliation by Iran,
toute représailles de l'Iran contre les États-Unis sera confrontée à une force bien plus grande que celle dont nous avons été témoins.
Signed,
signé Donald Trump.
United States, Donald J. Trump. Thank you very much. Appreciate it.
Les États-Unis qui sont prêts à discuter avec l'Iran sur son programme nucléaire civil, a dit le secrétaire d'État Marco Rubio lors d'un entretien à la chaîne Fox News. Pour rappel, cette nuit, des bombardiers américains ont mené des frappes contre trois sites nucléaires iraniens, Natanz, Isfahan et Fordo, une usine d'enrichissement d'uranium enfouie à 90 mètres sous une montagne. L'Iran a riposté quelques heures plus tard en lançant 40 missiles sur Israël. L'ampleur des dégâts ne peut pas être évaluée pour l'instant. Si les États-Unis se félicitent d'avoir complètement détruit les sites, des experts affirment que le matériel a été déplacé avant l'attaque. Un vrai tournant au 10e jour de la guerre entre Iran et Israël. Donald Trump s'était pourtant laissé 15 jours pour réfléchir avant de choisir la force et de marquer l'entrée directe des États-Unis dans le conflit. Le président américain est vivement critiqué jusque dans son camp républicain pour avoir donné le feu vert aux bombardiers sans autorisation préalable du Congrès. Après avoir été bombardé par l'Iran, en riposte aux frappes américaines, Israël a rapidement répondu. L'armée israélienne affirme avoir frappé des dizaines de cibles militaires en Iran, dont des sites de tir de missiles et de drones. En tout, 10 villes iraniennes ont été touchées, a ajouté l'armée israélienne. Une opération soutenue par la population qui vit au rythme des bombardements et des sirènes depuis 10 jours, avec écoles et commerces fermés. Alice Moreno est allée dans les rues de Jérusalem après l'entrée en guerre des États-Unis. La ville vit au ralenti, mais ne cède pas à la panique.
De rares touristes s'aventurent en ville à l'image de cette famille en balade au parc. De confession juive, parents et enfants soulignent que c'est un voyage en Terre Sainte et qu'ils ne craignent pas la riposte iranienne.
Nous sommes arrivés la semaine dernière des États-Unis. On nous demande en permanence si nous sommes coincés en Israël. Il n'y a aucun autre endroit où j'aimerais être coincé. Nous sommes heureux d'être là, entre les mains de Dieu, et Dieu va nous protéger.
À quelques pas, une scène presque surréaliste dans Jérusalem quasi déserte. Une jeune femme pose en robe de mariée. Sa mère l'accompagne, maquillée et habillée pour la cérémonie qui se déroulera ce soir.
Nous sommes orthodoxes et donc on ne décale pas un mariage qui était prévu. On essaie de tout faire tôt à cause de l'état d'urgence. C'est un jour très spécial, plein d'émotions pour moi, même si c'est la guerre ici et que ça fait peur.
Un jeune homme franco-israélien affiche quant à lui très clairement son soutien à l'entrée en guerre des États-Unis.
Enfin, je pense que c'est pour la bonne cause, quoi. Ils sont avec nous, donc ils vont nous aider et ils vont combattre avec nous.
Bien sûr, ça vaut de faire la guerre. Même s'il y a tout le monde entier contre nous, on gagnera.
L'accès à la vieille ville est fermé aux visiteurs. Porte de Damas, un Palestinien de Jérusalem-Est, ne cache pas son inquiétude.
On revient à une situation similaire au premier jour de guerre. Les gens ont peur de descendre dans la rue, dans les commerces. La région est en proie à la violence et ça va s'intensifier. Cette situation n'est dans l'intérêt de personne.
Pour lui, l'avenir semble plus que jamais incertain et il redoute la nuit à venir à Jérusalem.
Alice Moreno à Jérusalem pour France Culture. Et quel sentiment côté iranien après ces frappes américaines? À Téhéran, des manifestants ont appelé à la revanche. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a même été aperçu parmi la foule. Depuis la France, Shirin Adarkhani, avocate et fondatrice de l'association Iran Justice, se dit atterrée par les attaques.
Moi, je suis atterrée. Je crois que, je suis avocate, frapper des installations nucléaires, c'est du jamais vu. En droit, c'est absolument illégal et c'est illégal pour une raison, c'est que c'est très dangereux. Aujourd'hui, les Iraniens, ils font face véritablement à une double guerre. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont leur régime dictatorial qui continue de les traquer alors même qu'ils subissent les bombes des Netanyahou. Et de l'autre côté, aujourd'hui, l'angoisse est à son maximum parce qu'ils sont là à se demander s'ils vont être touchés par des conséquences radioactives du fait des frappes auxquelles ils ont été exposés de façon absolument inhumaine. Voilà. Donc moi là j'en appelle véritablement au sursaut. Je pense que la diplomatie européenne qui depuis 24 heures s'est activée pour de nouveau faire entendre une voix différente et distincte du chaos dans lequel sont en train de nous envoyer à la fois Khamenei, Netanyahou et Trump, je crois que là il faut condamner sans aucune réserve ces attaques, sans quoi la voix française et la voix européenne seraient inaudibles.
Shirin Adarkhani, avocate et fondatrice de l'association Iran Justice. On le rappelle, aucun risque radioactif n'a été détecté selon le gouvernement iranien et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a indiqué sur X qu'aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée aux abords des trois sites iraniens visés et a ajouté suivre la situation. En France, Emmanuel Macron a échangé avec le président iranien dans la matinée, réitérant la demande de libération des deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris, et appelant l'Iran à rejoindre la table des négociations au plus vite. Le président français a également discuté avec les chefs d'État d'Arabie Saoudite, d'Oman, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Des appels passés avant le Conseil de défense que doit présider Emmanuel Macron dans une heure et demie. Dans un message posté sur X, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a précisé que la France n'a ni participé à ces frappes, ni à leur planification, et appelle à éviter toute escalade. Du côté de l'ONU, le Conseil de sécurité doit se réunir dans la soirée. En France, au lendemain de la fête de la musique, 145 victimes de piqûres se sont manifestées auprès des services de police en métropole et en Outre-mer. Avant même le début des festivités, de nombreux appels à la vigilance avaient été relayés sur les réseaux sociaux. Des comptes prévenaient que des groupes d'hommes masculinistes s'organisaient sur des canaux de discussion pour piquer des femmes. Dans ces seringues, il y aurait de la drogue comme du GHB ou le virus du sida. Bonsoir Lou Momej.
Bonsoir.
Ces informations ont des sources très floues, mais effrayantes, à tel point que certains y voient une forme de panique morale.
Depuis un peu plus de 3 ans, les piqûres sauvages en soirée semblent récurrentes. La plupart du temps, difficile de dire si elles ont un réel effet néfaste. Sur 1000 victimes recensées au printemps 2023, la direction de la police nationale n'a par exemple retrouvé aucune trace de GHB. Mais le risque de se faire piquer avec on ne sait quelle substance, ce risque, relayé et amplifié sur les réseaux sociaux, distille la peur dans l'esprit des femmes. C'est ce qui pose problème pour Naïlé du collectif Nous Toutes.
On va faire peur aux femmes en reconcentrant l'attention sur le comportement des femmes qui doivent faire attention avant de sortir dans la rue de nuit pour aller faire la fête, plutôt de se concentrer sur le comportement des hommes et sur le fait de la responsabilité des hommes sur le phénomène des piqûres.
Le sujet des piqûres est surtout issu du réseau social X, connu pour abriter des communautés masculinistes. Naïlé y voit une volonté de discipliner les femmes par la terreur sexuelle.
Cette question-là, elle s'intègre complètement dans la culture du viol. Les femmes doivent rester à la maison pour rester en sécurité avec leur conjoint, avec leur mari, etc. En construisant aussi l'idée que des violences sexistes et sexuelles sont commises en extérieur par des personnes qui sont inconnues des personnes victimes.
Sauf que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent leur agresseur. Pour 45%, il s'agit même de leur conjoint ou ex-conjoint.
Merci Lou Momej pour ces explications. Un mot sur la météo qui sera adoucie dans la soirée, surtout tout le territoire. Attention aux orages dans la région lyonnaise. C'est la fin de ce journal réalisé par Caroline Beneteau, 18h10 sur France Culture.